Bonjour et bienvenue en Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Dans Espérance aujourd'hui, nous abordons les questions d'actualité à la lumière de la Bible, afin de mieux comprendre notre monde et vous faire part de l'espoir que Dieu offre.
Aujourd'hui encore, nous nous penchons sur le problème des catastrophes naturelles.
J'en parle avec notre invité Flavien, qui est ancien dans une église dans le sud de la France. Il habite une région souvent touchée par de violentes tempêtes et des inondations. Bonjour Flavien.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Nous savons malheureusement que lorsque des catastrophes naturelles frappent les hommes, elles peuvent causer d'énormes pertes humaines et matérielles. Flavien, comment doit réagir le chrétien devant ces drames et ces tragédies? Que peut-il faire? La Bible en dit-elle quelque chose?
La Bible dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ces paroles se trouvent dans Lévitique, chapitre 19 et verset 18.
Et qui est mon prochain? Et comment faut-il l'aimer?
Vous n'êtes pas le premier à poser ces questions. Car un jour, un religieux juif a posé cette même question à Jésus. Qui est mon prochain?
Et qu'a dit Jésus?
Il a répondu en racontant la parabole du bon samaritain, dont je vais faire le résumé. C'est l'histoire d'un homme, un juif, qui entreprend un voyage entre deux grandes villes. Alors qu'il traverse un lieu désert, il est attaqué par des brigands qui lui dérobent tout ce qu'il porte sur lui et l'abandonnent, gisant au bord de la route.
Il ne s'agit donc pas d'une catastrophe naturelle.
Non, mais il s'agit d'un drame tout aussi grave. Cet homme a tout perdu et il a failli y laisser la vie. Et les leçons que nous pouvons tirer de cette histoire sont tout aussi pertinentes pour ceux qui ont tout perdu lors d'inondations, de famines ou encore d'autres catastrophes.
Quelle est la suite de l'histoire alors?
Écoutons ce que dit la Bible et lisons la suite de la parabole. Il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi un lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un samaritain, qui passait par là, arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de pitié. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Je voudrais faire remarquer que les deux premiers hommes, qui sont passés devant celui qui était blessé, étaient des religieux pieux, très respectés. Et pourtant, ils n'ont nullement porté secours à cet homme mourant. Il faut aussi préciser que les Samaritains n'étaient pas très bien considérés par les Juifs. Ces deux peuples ne s'entendaient pas pour des raisons historiques. Et pourtant, c'est un Samaritain qui a porté secours à cet homme juif en lui sauvant la vie. Alors, je vous pose à mon tour la question posée par Jésus. Qui, dans cette histoire, semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands?
C'est évidemment le Samaritain.
Alors, j'en déduis que nous pouvons définir ainsi le commandement « Aimez votre prochain ». C'est porter secours. Aider dans la mesure de ses possibilités, celui qui se trouve dans le besoin, et ceci, quel que soit son arrière-plan social ou culturel. Nous n'avons pas à dire, par exemple, « Je ne vais pas aider cette personne parce qu'elle vient de telle ou telle tribu, ou tel village, ou de tel pays. » Notre prochain peut être notre ennemi. Mais qui que ce soit, nous sommes appelés à l'aimer.
Merci Flavien de nous avoir rappelé cette leçon fondamentale. Nous n'avons pas à priver quelqu'un d'amour à cause d'un préjugé quelconque. Mais revenons aux situations créées par des catastrophes naturelles. Concrètement, quelle aide peut-on apporter dans ces cas-là?
Avant d'y répondre, je voudrais évoquer ce qu'il faut éviter de faire et que malheureusement, nous voyons trop souvent. Lorsque l'on aime son prochain, on ne profite pas de sa misère pour en tirer quelques bénéfices que ce soit. Il ne faut pas participer au pillage, ni profiter des pénuries en vendant des denrées à des prix excessifs, ni non plus prêter de l'argent à des taux d'intérêt abusifs. Au contraire, on peut exprimer sa solidarité avec les sinistrés en partageant généreusement ses biens avec eux.
Y a-t-il des exemples de ceci dans la Bible?
Oui, nous apprenons dans les écrits du Nouveau Testament, notamment dans les lettres de l'apôtre Paul, que les famines ont par moments sévi à Jérusalem. Certains d'entre vous sauront ce que veut dire vivre une famine. Les prix augmentent parce que la nourriture commence à manquer. Obligés de dépenser leur épargne afin de s'en procurer, les gens, alors plongés dans leur misère, finissent par s'affaiblir dans leur santé. Et pour les plus vulnérables, cela peut aller jusqu'à la mort. Pour porter secours aux habitants affamés de Jérusalem, l'apôtre Paul a organisé une collecte d'argent qu'il a par la suite apporté à Jérusalem. L'église de Jérusalem a ainsi pu être approvisionnée en nourriture qui fut distribuée aux habitants les plus démunis. Donc, la ville de Jérusalem, sinistrée par une catastrophe naturelle, a été secourue par l'aide fournie grâce à la générosité des chrétiens de Macédoine. Ce genre d'action se pratique beaucoup de nos jours. Les chrétiens de pays épargnés montrent ainsi leur solidarité envers les habitants d'autres régions touchées par les désastres d'origine naturelle. Ce secours n'est peut-être pas toujours suffisant, il est parfois inadapté, mais pour ceux qui en bénéficient, il a beaucoup de valeur.
Mais la plupart de nos auditeurs n'ont peut-être pas beaucoup à partager. Certains arrivent à peine à subvenir à leurs propres besoins. Que diriez-vous à de telles personnes? Comment peuvent-elles montrer à leurs prochains qu'elles l'aiment?
Un jour, Jésus, en parlant du jugement futur et final, a dit ceci à ses disciples. « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. » Quand les disciples s'interrogèrent sur le sens de ces propos, Jésus dit « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. »
Donc même si nous ne pouvons faire que peu de choses, c'est une manière de servir et d'honorer Jésus que de répondre aux besoins de ceux qui se trouvent dans les situations difficiles, en partageant avec eux le peu que nous avons. Ce peu est précieux aux yeux de Jésus, comme pour la personne qui en bénéficie.
Tout à fait. C'est exactement le sens de l'enseignement de Jésus. Aussi, quand l'apôtre Paul eut fait la collecte pour l'église de Jérusalem, il a exprimé sa reconnaissance envers ceux qui avaient donné généreusement, malgré leurs moyens très limités. Les premiers chrétiens étaient pauvres, mais ils ont partagé le peu qu'ils avaient afin de porter secours à ceux qui étaient entièrement démunis. Et puis, pour ceux qui vivent dans les lieux sinistrés par un désastre quelconque, mais qui n'ont pas forcément subi de pertes, il peut y avoir d'autres moyens de venir en aide.
Pouvez-vous citer des exemples?
On peut recueillir des gens chez soi, partager des repas, aider à nettoyer ou à reconstruire des maisons, donner des conseils ou des paroles de consolation et d'encouragement inspirées par la Bible. Il faut laisser courir son imagination et se demander « Que puis-je faire pour aider ? Comment puis-je aimer mon prochain et exprimer ma solidarité ?» Pour conclure, il est vrai que les catastrophes naturelles apportent souffrance et malheur. Mais Dieu désire faire surgir le bien de circonstances apparemment mauvaises. Il le fera à travers des hommes et des femmes qui mettent en pratique sa parole, des hommes et des femmes qui aiment leur prochain.
Nous allons poursuivre le thème des catastrophes naturelles avec André que nous accueillons sur le plateau. Il nous fera part de ses pensées sur un récit trouvé dans Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27. Qu'Hélène va nous lire.
Il monta dans une barque et ses disciples le suivirent. Tout à coup, une grande tempête se leva sur le lac et les vagues passaient par-dessus la barque. Pendant ce temps, Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus !»« Pourquoi avez-vous si peur ?» leur dit-il. « Votre foi est bien petite. » Alors il se leva, parla sévèrement au vent et au lac. Il se fit un grand calme. Saisi d'étonnement, ceux qui étaient présents disaient « Quel est donc cet homme pour que même les vents et le lac lui obéissent ?»
L'homme a toujours voulu maîtriser la nature et, aujourd'hui encore, il cherche à le faire par tous les moyens. Certains vont essayer de manipuler ou d'apaiser les esprits ou les dieux de la nature. Ils espèrent ainsi bénéficier d'une bonne récolte, voir l'arrivée de pluie, être guéri d'une maladie ou rendre une femme fertile. D'autres font confiance à la science et à la technologie afin de mieux utiliser la nature pour leurs propres fins. Ce que les hommes arrivent à faire de nos jours peut nous émerveiller. Cependant, nous ne pouvons pas dire que l'homme est maître de la nature. Nous ne pouvons pas mettre fin aux périodes de sécheresse entraînant des récoltes désastreuses et des famines qui emportent les plus faibles. Nous ne pouvons pas non plus empêcher les tempêtes, les pluies torrentielles, les vents violents, les inondations qui occasionnent les pertes de vie et de biens. Nous avons du mal à combattre certaines maladies qui nous affaiblissent ou qui emportent nos biens aimés. Nous ne pouvons que conclure que les hommes et les femmes sont impuissants devant bien des phénomènes et bien des problèmes. Nous sommes maîtres de bien peu de choses. Nous sommes fragiles et vulnérables. Il suffit de peu pour changer le cours de notre vie et nous plonger dans le malheur. Les disciples ont dû faire face à leur propre impuissance. Lorsqu'ils traversaient le lac dans la barque, une violente tempête s'est abattue sur eux. Cette expérience leur a permis de réaliser que Dieu est maître des éléments déchaînés. Jésus a fait quelque chose qu'aucun autre homme n'a réussi à faire. Au beau milieu d'une tempête, il a élevé la voix et il a commandé au vent de s'arrêter, et avec quel résultat? Tout est redevenu calme. Quelques centaines d'années plus tard, un roi présomptueux, nommé Canute, a mis son trône sur une plage à côté de l'océan. Lui aussi, il a élevé la voix et il a commandé à la mer de ne plus avancer. Peu de temps après, il pataugeait dans l'eau car les vagues ne lui obéissaient pas. Que conclure? Devant le prodige accompli par Jésus, les disciples se sont posé la question « Quel est donc cet homme ?» Jésus a fait quelque chose que Dieu seul peut faire, car la nature ou la création n'obéit qu'à Dieu seul. Selon la Bible, Dieu a créé l'univers et il le maintient par sa parole. C'est-à-dire qu'il suffit que Dieu donne un ordre et la chose s'accomplit. Jésus a donné un ordre et la tempête s'est calmée. Cet incident sur le lac, comme beaucoup d'autres, nous montre que Dieu est venu sur la terre en tant qu'être humain et que Jésus maîtrise la nature non pas parce qu'il est simplement homme, mais parce qu'il est également Dieu. Ce mystère reste au-delà de la compréhension, mais il doit inspirer notre foi, car nous pouvons chercher le salut auprès de Jésus sachant qu'il peut tout. Nous pouvons lui confier nos vies et tout ce que nous vivons de particulier avec l'assurance que Dieu maîtrise tous les événements, absolument toutes les circonstances dans nos vies.
Seul Jésus est le maître des éléments déchaînés. Et nous avons vu encore aujourd'hui qu'il est réellement, comme le dit la Bible, Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous.
La Bible dit-elle si les catastrophes naturelles disparaîtront un jour? Écoutez notre prochaine émission pour en savoir plus.
En attendant, je vous dis au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.